Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la fin de l'année liturgique, puisque nous arrivons à la fin de cette année liturgique, pas l'année civile, l'année civile, eh bien, ce sera le 31 décembre. Mais la fin de l'année liturgique, c'est le dernier dimanche après la Pentecôte. Et le commencement de l'année liturgique, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous sommes en décalage par rapport aux institutions civiles, et c'est comme ça. Eh bien, pour ce dernier dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait réfléchir, nous fait méditer, nous fait prêcher, nous autres, les prêtres, sur cet évangile de la fin du monde. Ça fait 2000 ans que les chrétiens entendent cet évangile, les commentaires sur cet évangile, et certains seraient tentés de dire « ben, c'est pas pour notre époque ». De toute façon, la question du temple de Jérusalem, ça c'est toute la première partie de cet évangile, ben la question est réglée. Effectivement, notre Seigneur avait raison, notre Seigneur a toujours raison, et il nous rappelle encore à la fin de l'évangile, le ciel et la terre passeront, ça ne sert à rien de s'y accrocher, mordicus, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire, ce que je vous dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce ne sont pas des fables, la rigolade, c'est vrai, je suis la vérité même. Et donc, notre Seigneur avait dit à ses apôtres que le temple de Jérusalem serait détruit. Certains s'en moquaient, je ne parle pas des apôtres, je parle des pharisiens, et les apôtres, ayant entendu notre Seigneur, il avait dit ça, je crois, le mardi de la Passion, sortant du temple, regardait ce magnifique bâtiment, se dire comment est-il possible, comment est-il possible. Eh bien oui, les choses sont arrivées quelques années plus tard, en l'an 70, la Palestine, la Judée, était sous occupation romaine, comme d'ailleurs tous les pays du bassin méditerranéen. Une époque antérieure, c'était les Grecs qui commandaient. Vous vous souvenez de ça? Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand. Bon, les couronnes tombent et d'autres prennent le sceptre. Et là, c'est Rome. Rome qui est devenue, d'une certaine façon, la capitale du monde, enfin, en tout cas du monde occidental. Et tous les pays, les uns après les autres, vont tomber dans l'escarcelle de Rome. Quand on est sous la coupe de Rome, ben, il faut obéir. Et le pouvoir romain n'est pas un pouvoir à la main tremblante. C'est un pouvoir autoritaire qui collectionne l'impôt et qui donne des directives qu'il faut suivre. Seulement, c'était dur, la pastille était dure à avaler pour les Juifs. Parce qu'il fallait sortir des sous. Et puis, c'était des païens. S'en remettre à des païens, ils avaient raison. D'un autre côté, ils avaient raison. S'en remettre à un pouvoir païen, ben, pour eux, c'était pas possible. Seulement, ils n'avaient pas le choix. Parce que l'armée romaine était puissante, et donc on les avait avertis plusieurs fois, et comme il y avait toujours cette résistance, eh bien l'empereur romain va envoyer son armée avec Titus à la tête, pour faire le siège de Jérusalem. Et vous savez, vous n'avez pas connu ça, je pense, nous n'avons pas connu ça, parce que c'est qu'un état de siège, mais quand c'est bien mené, dans l'Antique, c'est très difficile. L'armée romaine entourait totalement la ville de Jérusalem pour faire en sorte que rien ne rentre, rien ne sorte sans contrôle. Quand on est en ville, on est tributaire des boutiques, À l'époque, il n'y avait pas les Auchan, les Super U, tout ce que vous voulez, mais il y avait des échoppes, des petites boutiques dans toutes les ruelles, si vous voulez, dans les quartiers. Hein, où, il y en a qui vendaient de l'huile, il y en a qui vendaient de la viande, il y en a qui vendaient des légumes, tout ça. Quand on était en ville, on ne peut pas avoir son magnifique potager. On ne peut pas avoir les vaches et les moutons et tout ça. Ah, ben non. Heureux les gens de la campagne, heureux les gens de la campagne. Voilà. Alors, toujours est-il que le siège de Jérusalem, on va tenir un certain temps, parce que ils ont des réserves quand même, un petit peu. Hein, ceux qui ont un petit peu plus d'idées, ils ont toujours quelques bouteilles d'huile d'avance, un peu de farine pour faire du pain. Mais seulement, si le siège dure, il n'y a plus rien. Alors, je vous garantis que la vie à Jérusalem, quand il y a eu ce siège, ça a été terrible. Il y a eu, bien sûr, le temple qui était détruit. C'était une magnifique construction, il y avait des cèdres du Liban qui avaient été utilisés, beaucoup de boiseries, tout ça, aussi des pierres. Et un incendie involontaire va faire que tout ça va s'envoler en fumée. Mais, je dirais, c'était la volonté du bon Dieu que ce temple de Jérusalem disparaisse pour laisser la place, nous sommes en l'an 70, l'Église est sur pied, avec le pape, Saint-Pierre, et il fallait bien que les sacrifices de l'ancienne loi cessent pour que le seul sacrifice agréable au Père éternel soit offert sur les autels des églises du monde, le Saint-Sacrifice de la Messe. Non. Ça ne pouvait pas continuer les deux en parallèle, le Temple de Jérusalem et le sacrifice de la Nouvelle Loi. Donc le Temple de Jérusalem et le sacerdoce vont disparaître, hein, parce qu'il va y avoir un massacre épouvantable à Jérusalem. Quantité de personnes vont mourir de faim. L'historien Joseph donne quelques précisions, un historien juif, donne quelques précisions sur cette hécatombe qu'il y a eu à Jérusalem. Notre Seigneur ne s'était pas trompé. Parce que notre Seigneur est Dieu, et il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. La ruine de Jérusalem a bien eu lieu. Alors, comme on veut évidemment toujours contourner la vérité, la réalité, on a voulu dire que finalement, c'est une coïncidence. Voilà. Mais enfin, on allait y remédier. Julien, l'empereur Julien, l'apostat, qui est venu après les fils de Constantin, Constantin qui avait donné la paix à l'Église, et le fameux Julien, là, lui, c'était un type de peu de valeur morale et spirituelle. En tout cas, un ennemi de notre Seigneur. Il mourra dans une expédition en Perse, là-bas, en brandissant le poing en l'air. « Tu m'as vaincu, Galilien !» écumant de rage. Et alors, Julien l'apostat, inspiré par le diable, ça ne peut pas être autrement, avait eu l'idée de rebâtir le temple de Jérusalem. Ben, tous les moyens sont bons. Pour abaisser le Christ et son Église, il voulait promouvoir toutes les religions païennes, remettre les dieux païens d'antan, hein, à l'honneur, et puis, pourquoi pas, le temple de Jérusalem, comme ça faisait plus de force contre le Christ. Seulement, Julien l'apostat ne va pas arriver à rebâtir le temple de Jérusalem, car la volonté de Dieu était que ce soit niette. Et les hommes qui étaient envoyés par Julien pour remettre les fondements du temple, et rebâtir sur les fondements du temple, vont être obligés d'abandonner. Saint Jean Chrysostome donc nous dit que les flammes sortaient de terre. Ils étaient brûlés. Qu'allez-vous faire? Rien. Ils ont été obligés d'abandonner. Puis après, Julien est mort, et il sera remplacé par d'autres empereurs qui n'auront pas la même perversité. À notre époque aussi, on prétend vouloir rebâtir le temple de Jérusalem. Bon, eh bien, je leur souhaite bien du courage. S'opposer à la volonté de Dieu, car la volonté de Dieu ne change pas. C'est toujours la nouvelle économie du salut, c'est toujours la messe, et ce sera encore demain la messe, Et ce ne seront pas les temples, les sacrifices de bestiaux qui reviendront à l'honneur. Alors, c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il y a les musulmans qui sont là. Ils n'ont pas envie de céder, évidemment. Alors comment tout ça, ça finira? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le bon Dieu aura le dernier mot. Et que si le temple de Jérusalem a été détruit, eh bien, ce n'est pas pour le rebâtir 9 siècles, 10 siècles, 20 siècles après, et pour reprendre le judaïsme d'antan. La deuxième partie de l'Évangile, tous les auteurs sont d'accord sur ce fait, concerne les événements à venir, les événements de la fin. Alors on pourrait dire, est-ce qu'on y sera? J'en sais rien. Est-ce qu'on y sera? D'une certaine façon, oui, nous sommes concernés. Je vous expliquerai tout à l'heure parce que nous y serons. Mais ces événements vont s'échelonner, vous savez, dans les prédictions qui sont faites. Il y a du mystère, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc ça peut s'échelonner sur des décennies, voire des siècles, les événements de la fin. Il est certain que à notre époque, on voit certaines choses qui se rapprochent. Il y a des raz de marée. Il nous en parle assez du changement climatique. Bon, c'est votre faute. Vous ne saviez pas ça? Oui, parce que vous roulez en diesel. C'est ça. Je pense qu'il y a d'autres raisons, mais ils gardent bien nous les donner, ces raisons-là. Donc, oui, d'accord, on constate qu'il y a un réchauffement climatique et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner si ça continue dans quelques années? Des bouleversements, le niveau des mers va monter, il y aura des raz-de-marée, il y aura des... ça va, petit à petit, s'accentuer tous ces phénomènes-là. Enfin, pour l'heure, bien qu'aujourd'hui il y ait de la pluie, et merci mon Dieu de nous envoyer de la pluie, le soleil brille toujours. Il n'est pas parti se cacher là-bas, je ne sais pas derrière quelle étoile. Il est toujours là, la lune est toujours là. Il fait son travail, avec les marées. Et puis, si vous regardez le ciel le soir, la nuit, vous voyez toujours les étoiles. Pour l'instant, elles ne se décrochent pas. Mais ces choses-là arriveront, puisque notre Seigneur l'a dit. Le soleil s'obscurcira. La lune, les étoiles viendront se précipiter là. Alors, dans combien de temps, nous ne savons pas. Mais ça arrivera. Ça arrivera, ces événements-là. Nous savons aussi que lorsque nous approcherons de la fin du monde, il y aura la conversion du peuple juif. Des vrais, des vrais. Pas des Khazars, les autres. Ils tiennent à leur religion, et pour l'instant, ce n'est pas d'ailleurs les insulter que de leur dire « je ne constate pas une amorce de conversion au catholicisme romain ». Non, ils n'ont pas du tout l'intention de se convertir. Ils sont toujours dans un aveuglement que le bon Dieu permet. Donc, tous les éléments ne sont pas réunis aujourd'hui. Si vous entendez dire c'est la fin du monde, c'est là. On n'est pas encore arrivé à la fin du monde. Ça peut se précipiter, ça peut arriver là. On ne sait rien. Mais c'est pas pour demain. Ça va encore se dégrader. La situation va se dégrader. L'apostasie. Et puis n'oublions pas aussi, c'est très compliqué tout ça. Donc faut pas être des gens qui dogmatisent, qui imposent aux autres, parce que chacun a sa vision des choses, et forcément, c'est moi qui ai raison, et toi, t'as tort, n'est-ce pas? Alors, je vous dis, c'est complexe, ce qui nous a été annoncé. Alors, il y a des auteurs qui sont plus crédibles que d'autres. Il y a des saints, alors je parlais ce matin, le nom m'échappait, ça m'est revenu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle aimait beaucoup voir à son chevet le bienheureux Hans Hauser, un bienheureux, qui a justement parlé de ces événements. Bon, parle d'une, après une tourmente terrible, hein, d'une période de paix qui durait plusieurs siècles. Alors ça correspond un petit peu aussi à ce que nous attendons, parce que nous ne sommes pas des républicains dévots, hein. Je pense, les uns et les autres. La Révolution française, nous la laissons bien à Monsieur Macron, ou Sarkozy, ou Hollande. Ça, c'est pas notre tasse de thé, nous. Et nous attendons, oui. Peut-être qu'on nous prend pour des bonnets, mais enfin, ce grand monarque, qui sera un grand chrétien. Ce grand monarque, ce grand pape aussi, qui restaurera l'Église, nous l'attendons. Et pas que nous. Il semble que même des peuples païens attendent, savent que viendra de chez nous ce grand monarque qui rétablira toutes choses selon la justice, selon la vérité. Alors, évidemment, puisque ce grand monarque n'est pas encore arrivé, la République n'est pas tombée encore, hein, elle est dans ses derniers soubresauts, je l'espère, eh bien, il faudra attendre. Il faudra attendre. Et la fin du monde arrivera après. Mais nous sommes concernés, je vous le disais tout à l'heure, par la fin du monde. Parce que nous y serons. Pas dans toutes les prémices, hein, mais à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les anges du Seigneur, c'est dans la Sainte Écriture, hein, les anges du Seigneur vont sonner de la trompette et tous les morts vont ressusciter. Depuis Adam, Caïn, tous les païens, tous les juifs de l'Ancien Testament, tous les chrétiens qui ont vécu pendant 2 ou 3 000 ans, et puis ceux qui ne seront pas encore morts, ceux qui vivront cette époque de la fin. Et évidemment, c'est pas une période à envier, hein, parce que ça sera terrible, les bouleversements terrestres qu'il y aura. Alors, certains veulent faire de l'esprit, n'est-ce pas, et dire, mais comment est-ce possible, enfin, ressusciter des corps qui ont disparu depuis des siècles, il n'y a même plus de miettes, il n'y a même plus des cendres, certains ont été mangés par les requins, brûlé par le feu, hein, surtout à notre époque où il y a la crémation, n'est-ce pas ? J'espère que vous n'avez pas mis dans vos dernières volontés crémation. Parce que si vous avez marqué crémation, vous irez vous faire enterrer ailleurs. Moi, je ne vous enterrerai pas ici. Hein. Je ne vais pas désobéir à l'Église, me prendre une excommunication, un péché mortel, pour vous faire plaisir. Le chrétien ne se fait pas incinérer. En tout cas, même si vous deviez périr par le feu et qu'il ne reste rien du tout que de quelques cendres qui s'envolent au vent, ça n'empêchera pas le bon Dieu de vous ressusciter. Le bon Dieu ne nous a pas demandé comment faire pour créer l'univers. Il l'a créé ex nihilo, à partir de rien. C'est lui qui a créé la matière première, il n'y avait rien. Alors ça nous donne le tournis parce que il y a toujours quelque chose autour de nous, hein. Il y a nous déjà. Mais s'imagine, le néant, rien, en dehors de la très sainte Trinité. Il a créé tout l'univers, les planètes, les galaxies, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, vous croyez que ça va être quelque chose de si compliqué pour le bon Dieu de rassembler tout ce qui a disparu, les éléments de notre corps, et nous redonner notre corps? Si le bon Dieu a changé de l'eau en vin, s'il a multiplié les petits pains et les poissons, c'est un jeu d'enfant pour le bon Dieu. Hein? Donc il ne faut pas douter de la parole de Dieu. Tous ressusciteront, mais évidemment, ils ne sont pas dans le même état. Il y en a qui ne seront pas fiers, parce qu'ils se seront moqués de la religion. Ils n'auront pas voulu de la vérité, certains. Ils auront préféré l'erreur, les fausses religions. Il y en a beaucoup. Et ils seront morts dans cet état-là, un état de damnation. Ils auront été damnés. Certains sont en enfer déjà depuis plusieurs milliers d'années. Hein. Tout ce monde-là ressuscitera pour le jugement final. Eh oui, il y aura deux jugements. Il y aura notre jugement à nous, ce qui va arriver, ça c'est une certitude. Nous allons mourir. Quand ? Mystère, mais nous allons mourir, ça c'est sûr. Et on va être jugé. De façon tout à fait juste. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et ce jugement-là n'ira pas après en cours d'appel ou en cours de cassation. Et encore au-dessus, il y a la Cour européenne, paraît-il. Bon, non. Dieu ne se dédie pas. Le jugement en particulier, si vous êtes sauvés, merci mon Dieu, hein, vous aurez bien œuvré sur la terre. Si vous êtes damnés, tant pis pour vous. Vous aurez été prévenus. Et le jugement général, eh bien, ne sera qu'une confirmation du jugement particulier. Mais une confusion pour les damnés terribles. Parce que, voyez-vous, le jugement particulier. Bon, aujourd'hui, vous avez des gens qui meurent, alors les médias, enfin le monde, fait leur éloge. Hein, vous connaissez quelques personnages publics comme ça, qui sont décédés. Bon, si ça avait été de très bons chrétiens, on n'aurait pas fait les éloges dans les journaux et dans les médias. Mais quand ce sont des personnages hauts en couleur, de la République ou de la chanson, voilà, on en fait des personnes immortelles, quoi. Au jugement général, beaucoup... Ben les livres seront ouverts et tout sera dévoilé. Quelle confusion pour ceux qui seront damnés. Il n'y aura pas la confusion pour ceux qui seront sauvés, parce que peut-être que vous vous dites, mon Dieu, je ne suis qu'une pauvre femme ou je suis qu'un pauvre homme, je me suis converti. Oh non, s'il vous plaît, ma vie d'avant, si tout ça est dévoilé au monde, ce que j'ai pu faire avant ma conversion, oh là là, où je vais me mettre ? N'ayez crainte. Le bon Dieu, d'abord, est juste, le bon Dieu est bon. Et je vous prie de croire que Sainte Marie-Madeleine, qui en a fait des vertes et des pas mûres, elle ne se terrera pas au moment du jugement général. Car on ne verra que sa conversion, que sa vie après sa conversion. Le reste, il y aura comme un voile, si vous voulez, qui cachera tout ça. Par contre, pour les damnés qui auront bien caché leur petit jeu, n'est-ce pas ? Tout le mal qu'ils auront pu faire, tous les complots qu'ils auront ourdis dans l'ombre et tout ça. Même si, à leur mort, eh ben, on en a fait des idoles et tout. Tout cela sera découvert. Quelle horreur, quelle horreur. Tout le monde constatera, en fait, que tout ça était pourri. Tout ça était du diable. Donc oui, ce jour arrivera. Et nous serons concernés par la fin du monde, car tous nous paraîtrons devant le juge souverain. Alors, puisque ce sont les paroles de notre Seigneur et que notre Seigneur ne se trompe pas et ne nous trompe pas, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se préparer. Se préparer. Même si ça n'arrive que dans 600 ou 1000 ans. De toute façon, ça va arriver. Donc il faut se préparer, parce qu'il n'y aura pas 36 solutions. Soit vous serez du côté des damnés, et je pense que personne parmi vous n'a envie de cette solution-là, soit vous serez du côté des saints, des élus. Et ce n'est pas à ce moment-là que ça se décidera, c'est maintenant que ça se décide. C'est maintenant le temps de la miséricorde, ce sera le temps de la justice. Maintenant c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de corriger. Nous avons tous des défauts, nous avons tous... Bon, c'est maintenant qu'il faut se tourner vers le bon Dieu, qu'il faut prendre les moyens que le bon Dieu met à notre disposition pour nous sanctifier. Nous avons les sacrements. Nous avons les sacramentaux. Tiens, par exemple, ce matin, quand vous êtes réveillés. Quels sont ceux qui ont oublié de prendre un petit peu d'eau bénite ? Je ne vais pas me lever le doigt parce que... Il y aurait peut-être trop de monde, hein. Bon, ben oui, c'est si simple. Un peu d'eau bénite quand on se lève, un peu d'eau bénite quand on se couche. Pour être aidé par le ciel, on a besoin de cette aide. On cherche de l'aide à droite, à gauche, on va chercher le voisin, viens nous donner un coup de main, tiens. J'ai trois parpaings, j'ai mal au dos, je ne peux pas les soulever. Tu peux me dire, bah, bien sûr, je vais te donner un coup de main. Mais pour notre salut éternel, on a besoin de l'aide du ciel. Et le ciel ne demande pas mieux. On laisse ça de côté. On laisse ça de côté. Donc, il faut y penser maintenant. Je vous le répète, c'est le temps de la miséricorde. Un jour viendra où ce ne sera plus le temps de la miséricorde. Et là, ce ne sera pas le moment de dire « Ah, je savais pas » ou « j'ai pas eu le temps ». Si, si, tout le monde a eu le temps. Tout le monde a eu les grâces du Seigneur pour voir. Mais il y en a qui ont choisi le bien et il y en a d'autres qui ont dit « Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous à nos plaisirs. Laissez-nous à nos rêveries. » Ben oui, mais le rêve, ce n'est pas la réalité. Et un jour, il faudra bien affronter cette réalité. Malheur à ceux qui n'auront pas été disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous d'être de fervents disciples de notre Seigneur Jésus-Christ pour un jour être dans la gloire des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.